Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour à tous, auditeurs de Radio Okapi. Bienvenue dans votre magazine Bana Okapi, l'émission qui donne la parole aux enfants, aux jeunes et aux parents avec les soutiens de l'UNICEF. Aujourd'hui, Bana Okapi se penche sur l'encadrement des élèves au préscolaire et au primaire. Un défi quotidien pour les enseignants confrontés aux pleurs, au stress et à l'intimidation de plus jeunes. Quelle technique pour les captiver? Comment donner envie aux enfants de revenir à l'école? Quelle méthode pédagogique et ludique privilégiée? Quel modèle d'encadrement adopter pour favoriser leur épanouissement? Pour ce numéro exceptionnel, nous avons réuni des experts, des acteurs clés de l'enseignement, le ministère de l'EPSP et bien sûr, les témoignages des enfants et des parents. Ensemble, nous allons définir les bons modèles pour un encadrement réussi des élèves. Je suis Sarah Soumbela, j'ai le plaisir de vous présenter cette émission. Aux commandes de la mise en onde, vous retrouverez Polydor Basunga. Christian Mapendanoya Chris coordonne ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matokimo Felele Dijano. Alors, sans plus tarder, commençons.
Bana Okapi.
Quel modèle imprimer pour l'encadrement des enfants à l'école? C'est le sujet au cœur des échanges dans ce magazine Bana Okapi. Parce que c'est d'eux qu'il s'agit, nous sommes allés à la rencontre des enfants. Que pensent-ils de leur encadrement à l'école? Règles strictes ou accompagnement bienveillant? Ambiance rigoureuse ou récréative? Chacun a son point de vue. Et quels sont leurs jeux préférés? Greta Lolendo a recueilli leurs témoignages.
Alors, dis-moi, comment est-ce que tu te sens à l'école?
Je me sens bien.
Bien.
Tellement bien.
Je me sens bien.
Je me sens très bien.
Comment ça? Qu'est-ce qui prouve que tu es bien encadré?
Je suis bien mes études, quand mes enseignes, je suis bien.
Et qu'est-ce que tu aimes faire à l'école?
Étudier. J'aime jouer, étudier. Si quelqu'un me provoque, j'aime donner les rapports et j'aime aussi taper.
Étudier, jouer.
Qu'il vous arrive de jouer avec votre monsieur ou votre madame?
Non, non, jamais.
Et le monsieur ne vous apprenne pas des chansons, quand vous chantez, il y a de l'ambiance, vous riez avec monsieur.
Ça arrive, mais ça nous apprend plusieurs chansons.
Par exemple, comme quelle chanson?
Madame Xil, elle est trop gentille. Madame Xil, elle est très gentille. Elle tape en riant, elle n'a pas de colère. Elle tape en riant, elle n'a pas de colère.
Et est-ce que vous jouez aussi avec madame?
Oui.
Vous dansez aussi avec elle?
Oui.
Dis-moi, par exemple, quelle chanson?
En classe, ne pleure pas. Tu es là pour travailler. Si tu fais pas attention, c'est le fouet que tu auras. On récite.
Comme quelle récitation?
Mon village, oh les jolis petits villages. C'est que c'est nous habitants. Aucun n'est plus beau plus que parmi tous ces deux environs.
Qu'est-ce que tu aimerais qu'on ajoute à l'école pour qu'il y ait beaucoup plus de l'ambiance?
Moi, j'aime à l'école qu'on ajoute beaucoup des élèves, qu'on arrange aussi l'école, qu'on fait monter plusieurs étages, que l'école devienne avec beaucoup d'ambiance pour que les enfants puissent bien étudier, bien aussi comprendre les choses que le monsieur enseigne.
Alors, tu aimeras commencer à jouer chaque jour avec monsieur ou madame?
Non.
Non. Pourquoi?
Je n'aime pas.
Tu n'aimes pas? Et qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu vas à l'école? Tu vas à l'école parce qu'il y a des toboggans là-bas?
Non.
Tu vas à l'école pourquoi?
Étudier.
J'aime étudier parce que c'est mon avenir. Si tu n'étudies pas, tu vas savoir rien à la vie. Même si ton mari ou qui t'envoie l'enveloppe pour lire, tu ne savais pas pourquoi tu n'as jamais étudié.
Merci à Greta Lolendo pour cet élément. Petit à petit, je crois que vous, autant que moi, nous devenons fans de Bana Okapi. L'école, un passage obligé pour construire son avenir et contribuer à la société. Mais à Kinshasa, les parents ont des avis divergents. Certains saluent l'épanouissement de leurs enfants, d'autres dénoncent un système éducatif en déclin. Suivez ces quelques parents interrogés par Sulamit Kipuni sur les rues de Kinshasa.
Quelles sont vos attentes de l'école en matière d'encadrement de vos enfants?
Que l'école soit un guide pour les enfants, qui les accompagne durant toute leur vie scolaire et que l'école aide les enfants, le favorise à leur réussite et à son développement intégral. Donc.
Bon, ça dépend des écoles, hein, parce que l'encadrement des enfants, c'est nous les parents et les enseignants. Les enseignants sont comme les deuxièmes parents. Ils doivent nous aider, nous tous ensemble, pour l'éducation de nos enfants. Mais je vois dans plusieurs écoles, il n'y a plus de pédagogues. Il n'y a pas des gens qui ont la matière pour former, éduquer les enfants. Les éducateurs d'aujourd'hui n'ont plus de patience à éduquer un enfant.
En fait, tout parent, quand il envoie ses enfants à l'école, c'est pour un bon rendement. Quand il arrive à l'école, c'est une société aussi mise en part parce que l'enfant obtient ce qu'il n'avait pas.
L'enseignement est bon, l'encadrement est très bon.
Est-ce qu'il vous arrive de jouer ou de danser ou encore organiser des jeux avec vos enfants?
Oui, en blaguant à la maison, je le fais souvent. Mais de jouer comme au football, non. Mais en blaguant, on fait des blagues, je le fais souvent.
Bien sûr que oui, un parent qui aime bien ses enfants, il faut qu'il se réjouisse avec ses enfants. Quand l'enfant te demande de jouer avec lui au ballon, tu vas jouer. Quand il vous demande de jouer à la tennis, tu vas le faire. Parce que tu ne peux pas refuser tout à ton enfant. Quand tu l'aimes bien, tu le chéris bien, il faut faire ce que aussi l'enfant demande. Tu te mets aussi au même niveau que ton enfant pour savoir qu'est-ce qu'il veut au juste.
Je joue avec mes enfants par moment, c'est vrai, c'est pas tout le temps, mais par moment je joue avec mes enfants. C'est aussi une façon pour moi de les découvrir encore plus. Ça me permet de découvrir également leurs talents, parce que vous savez, il y a des jeux qui mettent à la découverte les talents des enfants, leur façon de voir les choses, et c'est important de jouer avec les enfants.
Non, mon fils, il est sportif à deux fois. On fait du sport avec lui, mais pas régulièrement. Mais parler, c'est régulièrement. C'est chaque jour qu'on doit parler pour l'éducation de l'enfant.
Oui, pendant les vacances, c'est normal, mais pendant l'école, je n'accepte pas.
Comment est-ce que vous vous impliquez dans les suivis scolaires de vos enfants?
Oui, d'abord, premièrement, moi, je travaille 8 heures du temps. Souvent, c'est madame qui s'occupe de ça. Mais moi,
à l'école, je suis vraiment impliquée, beaucoup impliqués à leur suivi scolaire. Parce que cela me permet d'être en contact avec l'école, comprendre, savoir comment les enfants évoluent.
Par surprise, je peux passer dans la chambre, je récupère le sac de cahiers, hein. Je commence à vérifier chaque cahier, où il a échoué, où il a excellé.
Quand il y a un souci, je dois aller me présenter à l'enseignante de tutelle pour lui demander pourquoi l'enfant, je vois, il ne s'applique pas bien ce qu'on tient de quoi. L'enseignant va m'expliquer.
Quelles sont vos préoccupations concernant l'encadrement à l'école? Est-ce que vous avez des préoccupations particulières?
Non, j'en ai pas, non.
Et il y en a toujours, par rapport à ce qu'on vient de dire, les préoccupations peuvent venir quand un parent qui voit que non, son enfant il était à la hauteur et commence à baisser ses pourcentages. Là, on peut aller s'interroger directement à l'enseignant ou aux directrices ou au préfet pour savoir quand l'enfant pourquoi ne s'applique pas davantage comme il faisait auparavant. Là maintenant on va me donner les briefings, dit que non, l'enfant peut-être il faisait l'école boursonnière, peut-être il venait en classe, il était distrait.
Comment communiquez-vous avec les enseignants et les autres personnels éducatifs?
Oui, j'ai le numéro de leur DD, le numéro de leur madame, on se communique souvent.
Nous avons un groupe de parents, on se communique nous tous.
D'abord, c'est avec la direction. Quand la direction nous autorise d'entrer en contact avec certains enseignants pour vérifier si réellement l'enfant s'applique bien.
Quelles sont vos suggestions pour renforcer les partenariats entre l'école et la famille en matière d'encadrement des enfants?
Il n'y a pas de suggestions là-bas, il n'y a pas.
Donc pour vous, tout se passe bien?
Oui.
On doit être unis, nous les parents et les éducateurs là-bas à l'école.
Le partenariat, ça s'enfonce toujours en posant des questions. Quand il y a les comités des parents, il y en a toujours des discussions entre parents et enseignants pour qu'on puisse renforcer les capacités de nos enfants.
je suggère à ce que le parent soit vraiment en contact avec l'école. Il faudrait à ce que le parent se mette à l'écoute et de l'enfant et de l'école également, mais de ne pas s'arrêter par là, de passer par des enquêtes et des vérifications pour savoir si ce que l'enfant dit est vrai, pour savoir également si des remarques que l'école font sur l'enfant ou sur l'évolution de l'enfant est certaine. C'est très important, madame, que les partenariats de l'école en famille soient efficaces en matière d'encadrement pour le bien-être de nos enfants.
Pour Hyacinthe Kinavouidi, enseignant et directeur de discipline à l'école d'application de l'UPEN, l'encadrement scolaire ne se limite pas à la discipline. Il vise à former des citoyens accomplis. Il souligne l'importance de l'implication de parents acteurs clés dans l'accompagnement des enseignants. Hyacinthe Kinavouidi est joint par Greta Lulendo.
Monsieur Hyacinthe Kinavouidi, bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, l'émission Bana Okapi parle de l'encadrement des enfants à l'école. Dites-nous,
oui.
Depuis combien de temps exercez-vous dans l'enseignement? Qu'est-ce qui vous motive dans ces métiers?
Bon, nous sommes dans la 8e année depuis que nous avons commencé à encadrer les enfants. La seule motivation, c'est que nous avons comme connaissance... Nous devons aussi le transmettre de génération en génération pour ne pas créer un vide après nous.
Évidemment. Et selon vous, pourquoi l'encadrement des enfants à l'école est-il essentiel pour leur épanouissement?
Oui, l'encadrement est essentiel. Vous savez que au niveau de l'école, nous avons les enfants, les adolescents. Alors, c'est une période de la vie, enfant essaye de connaître tout, de faire tout pour qu'il se sente soit capable ou pas. Alors, lorsque l'encadrement ne suit pas, risque les déviations que nous constatons auprès de certains enfants que nous appelons communément enfants de la rue.
Et quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans l'encadrement des élèves?
Les défis que nous rencontrons dans l'encadrement des élèves est que vous avez une catégorie d'enfants qui ne veulent pas. Et souvent, ce sont ces enfants qui nous posent trop de problèmes. C'est comme ça que même la législation de l'enseignement a même prévu qu'il y a des renvois, des fois, de temps en temps. Le milieu qui peut aussi être un élément qui influence l'enfant. On est censé soit changer d'abord de milieu pour voir quel serait le comportement de l'enfant. Mais sinon, surtout avec cette génération où les enfants ne veulent plus être enfants, comme nous avons étudié ça dans un texte. Les petits ne veulent plus être enfants. C'est comme ça que nous avons assez de difficultés. Surtout que le parent aussi, des fois, ne nous accompagne plus. Parce que lorsque l'enfant a peur de ses parents dès la maison, il a posé certains actes même loin de la maison. Mais nous constatons qu'il y a des enfants qui sont presque abandonnés et qui n'ont même pas peur de leurs parents. Ils posent n'importe quel genre d'acte au niveau de l'école.
Comment l'encadrement influence-t-il la réussite scolaire et personnelle des enfants?
Oui, mais l'encadrement doit réellement influencer la réussite parce que si un enfant est bien encadré au niveau de l'école, au niveau de la maison, vous verrez que cet enfant va produire ce que vous attendez de lui parce que il est suivi. Dès qu'il essaye de dévier, il y a quelqu'un qui lui remet sur le droit chemin. Et vous avez la facilité de récolter de bons fruits auprès d'une telle personne.
Et quelles sont les stratégies que vous utilisez pour assurer un bon encadrement des élèves en classe?
Bon, dans la salle de classe, souvent, nous avons l'habitude d'étudier le comportement des enfants. Et souvent, on les sépare. C'est-à-dire, si vous voyez un enfant qui est à côté de ceux qui aiment déranger avec lui, vous les séparez dans les différentes salles de classe. Lorsque vous sentez que le comportement ne suit pas comme vous le voulez, vous invitez les parents, vous les expliquez afin que vous fassiez ce travail-là au même moment que le parent. Souvent, avec des petites punitions qu'on peut donner dans la salle de classe, ça ramène l'enfant à avoir un bon encadrement scolaire.
Et comment inculquez-vous la discipline et le respect des règles aux élèves?
que nous commençons d'abord par mettre à leur disposition un document qui reprend les règles de l'école, lire de temps en temps avec eux, prodiguer des conseils, et souvent c'est de cette manière-là que nous procédons.
Monsieur Yonsant, quelle valeur essayez-vous de transmettre aux élèves au-delà de matières scolaires?
Les valeurs, c'est d'abord, nous pouvons dire que les valeurs morales, telles qu'ils apprennent ça, que ce soit à l'église, dans les familles, en société, c'est-à-dire le bien vivre ensemble, le respect de biens publics, le respect de l'adulte, éviter les injures, éviter les bagarres dans la société, copier les bonnes manières de vivre dans la société. Voilà quelques valeurs que nous essayons à inculquer aux enfants, hormis les matières.
Et pour finir, quel message aimeriez-vous adresser aux parents, aux enseignants et aux autorités éducatives sur l'encadrement des enfants?
Nous commençons d'abord au niveau des parents, parce que la maison doit être considérée comme la source de l'encadrement de l'enfant, et surtout que les parents doivent tout faire à ce que l'enfant puisse non pas avoir peur d'eux, mais qu'ils aient au moins des stratégies pour que tout ce qu'ils auront à donner comme conseil, comme manière de vivre dans la société à l'enfant, qu'ils puissent intégrer cela dès la maison déjà. Et les écoles, nous dirons que c'est notre métier, mais nous devons aussi savoir que quand un enfant va au-delà de ce qu'il devrait présenter comme encadrement ou comme bonne manière de vivre dans la société, on est aussi dans l'obligation de les mettre de côté. Comme on le dit, une orange pourrie, on ne peut pas la mettre dans le même sac que les oranges de bonne qualité. Mais sinon, nous devons procéder toujours par le conseil. Punition, d'ailleurs la punition ne peut pas être évitée, parce que même la Bible a recommandé le fouet à l'enfant, c'est pour le redresser. Et malheureusement, sur le plan scolaire, nous n'avons plus cette possibilité de fouetter les enfants. Donc nous demandons aux enseignants de suivre ce que la législation scolaire nous demande, mais on doit être dur envers eux, envers ces enfants, sinon nous allons échouer dans notre mission. Mais au niveau de la législation ou des dirigeants du pays, nous leur demandons de renforcer la législation scolaire pour que au moins les enfants puissent voir l'école un lieu où ils sortent avec de bonnes manières de vivre dans la société. C'est-à-dire, s'il y a des choses qu'il faut intégrer dans les différents programmes, dans les cours d'éducation civique et morale, ils sont censés réintégrer cela pour que l'école fasse correctement son travail. Et même les centres d'éducation, au niveau des différentes prisons, ils doivent aussi voir comment intégrer certains enseignements ou même encadrements, au lieu seulement d'emprisonner les gens pour une durée et après vous les remettez dans la société tant qu'il y ait réellement de ce qu'ils auront appris.
Monsieur Enceinte, qui n'en vous dit? Merci.
Merci beaucoup, madame.
Nous bouclons déjà la première manche de ce magazine, mais ne vous éloignez surtout pas parce que la seconde partie arrive dans quelques minutes.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Nous sommes heureux de vous retrouver après les informations pour la suite de notre magazine consacré à l'encadrement des enfants à l'école. L'école est un lieu de formation pour les enfants, mais comment adapter l'encadrement aux plus jeunes, souvent déroutés par ce nouvel environnement? Dans ce magazine, nous explorons les clés d'un accompagnement réussi pour le préscolaire et les primaires. Pour cette deuxième partie, nos experts, enseignants, directeurs d'école, spécialistes du préscolaire et psychologues décryptent les meilleures pratiques pour un encadrement bienveillant et efficace. à la présentation de ce magazine. Je suis Sarah Sombela. C'est un plaisir pour moi de vous accompagner tout au long de cette émission. Un programme coordonné par Christian Mapenda-Noyatrice avec la mise en onde de Mimi Kindou et la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijano.
Bana Okapi.
Quel modèle imprimer pour l'encadrement des enfants à l'école? Ce sujet est au cœur de ce numéro du magazine Bana Okapi. Au complexe scolaire Omalaye Kadunjili, le directeur Freddy Mandiango prône une éducation intégrale. Pour lui, l'encadrement scolaire ne se limite pas aux cours. Il englobe aussi les jeux, le sport et les activités parascolaires. Il salue l'engagement de Madame Bonnette Elombe qui excelle dans l'encadrement ludique et récréatif. Il encourage tous les enseignants à suivre son exemple. Freddy Mandiango s'entretient avec Stanislas Durmi.
Bonjour monsieur le directeur Freddy.
Bonjour messieurs les journalistes.
Directeur Freddy Mandiango, aujourd'hui Bana Okapi parle un sujet qui table sur l'encadrement des enfants à l'école et quel modèle imprimer. En tant que directeur, quels sont les différents aspects de l'encadrement scolaire selon vous?
Ok, il y a plusieurs aspects d'encadrement des élèves à l'école, parmi lesquels nous avons l'encadrement physique et sécuritaire, nous avons l'encadrement éducatif et pédagogique, nous avons l'encadrement émotionnel et affectif, il y a également l'encadrement social et comportemental, encadrement moral et éthique, l'encadrement sanitaire et hygiénique, et enfin, il y a encadrement récréatif et sportif. Voilà quelques encadrements, aspects d'encadrement qu'on peut trouver dans le camp.
Et quelles sont les pratiques d'encadrement qui fonctionnent le mieux dans votre établissement?
Bon, il y a également plusieurs pratiques d'encadrement qui fonctionnent ici chez nous. Je peux énumérer quelques-uns. Il y a, entre autres, la pratique sécuritaire et de protection. Ici, il s'agit bien de la surveillance des enfants, comment protéger les enfants. En deuxième position, nous avons également la pratique éducative et pédagogique. Vous allez comprendre qu'ici, il s'agit bien des apprentissages, mais les apprentissages par les jeux, les enfants apprennent à travers le jeu. Nous avons également la pratique relationnelle et affective. Dans la pratique relationnelle et affective, ici, on sous-entend, il faut écouter les enfants, reconnaître également leurs émotions. Hormis cela, nous avons l'encadrement, la pratique plutôt, disciplinaire et comportementale. Ici, on fait allusion à un règlement scolaire clair et précis pour qu'on puisse l'exploiter. Cet encadrement, ce règlement plutôt, doit être adapté au niveau des élèves. Hormis cela, nous avons également la pratique de socialisation et d'intégration. Ici, il s'agit bien sûr du feedback entre les enfants et les adultes, c'est-à-dire l'interaction entre les enfants et les adultes, ou bien les rapports entre les enfants et les adultes. Nous avons également une autre pratique qui est le bien-être et la santé. Dans le bien-être et la santé, on parle bien de l'alimentation saine, c'est-à-dire que les enfants doivent consommer une alimentation qui est saine ou tout simplement une alimentation qui est équilibrée pour leur santé. Nous avons également, pour terminer, la pratique ludique et récréative. Dans la pratique ludique et récréative, ici on sous-entend les jeux, nous avons également les sports et enfin nous avons les activités parascolaires. Voilà en quelques mots ce qui concerne les pratiques scolaires que nous utilisons le mieux ici au complexe scolaire au Malaek.
Dans ce cas, nous comprenons que votre école utilise vraiment presque les différents aspects de l'encadrement scolaire. Et comme vous le savez, monsieur le directeur Freddy, il y a une enseignante hein, actuellement qui fait le buzz au niveau des réseaux sociaux par sa façon d'encadrer les enfants pendant la récréation. Et est-ce que c'est une bonne approche selon vous?
Oui, effectivement, c'est une bonne approche pour la simple raison que Cette approche ici nous permet, par exemple, de gagner les enfants. Cette approche ici fait en sorte qu'on puisse retenir les enfants dans les salles de classe, s'assure les enfants. Les enfants, au lieu de rester à la maison, mais parce que la danse est très attrayante, l'enfant est captivé, il ne veut plus rester à la maison, il vient en classe parce qu'il y a madame, la classe est très attrayante, il y a de l'intérêt pour les enfants. Et ça fait aussi, ça constitue également une sorte de publicité pour l'école. Par ricochet également, ça tue également les parents. Et lorsque les parents voient cet encadrement-là par la pratique ludique et sportive, ça leur pousse, ça leur stimule pour qu'ils puissent venir inscrire leurs enfants dans notre école. Vous voyez que c'est déjà un gain pour les parents. Voilà.
Est-ce que cette pratique n'a-t-elle pas d'inconvénients chez les enfants? Après récréation, on a dansé, on a joué, et cela n'influence pas sur la concentration des enfants?
Non, je pense que non, parce que chaque chose a son temps, l'enseignement est gradué, donc chaque chose a sa place. Donc ça n'influence vraiment pas du tout négativement sur les enfants, non.
Et quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien en matière d'encadrement des enfants?
Bon, les défis que nous rencontrons ici dans ces thèmes, il y a par exemple le maintien de la discipline. Parce que la discipline est trop vaste, ça demande beaucoup de taxes, beaucoup de maîtrise pour maintenir la discipline. Ça, c'est un des défis. Là, nous devons travailler dur pour maintenir la discipline. Alors, l'exiguïté également de notre cours de récréation, vous voyez, c'est comme si on plantait, on faisait une agriculture intensive.
Oui.
Alors, la cour est trop minime, il y a beaucoup d'élèves, donc il faut beaucoup de vigilance, redoubler vraiment la vigilance, mettre les bouchers doublés pour qu'on puisse maîtriser tant soit peu les enfants. C'est un des défis également. Il y a également la surveillance des récréations qui pose également problème, compte tenu de ce que je venais d'énumérer. Il y a aussi, parce que nous sommes sur le boulevard Luemba, la traversée des enfants également pose problème, ça demande beaucoup d'attention quand passé.
Et que faites-vous justement pour relever les défis par rapport à l'encadrement des enfants?
Ok, merci beaucoup pour la question. Pour relever les défis, il s'agit d'abord ici de faire participer tout le monde. Il y a des composantes. Il y a d'abord l'école elle-même, il y a les copains ici, c'est-à-dire le comité des parents, et puis il y a l'enfant qui est au centre de son éducation.
Très bien.
C'est-à-dire qu'il faut associer tout le monde. Lorsqu'on élabore les règlements intérieurs, il faut aussi impliquer les enfants, les comités des parents, on discute ensemble, on voit dans quelle mesure on peut dresser ou élaborer un règlement qui puisse répondre aux besoins que nous avons, aux défis plutôt que nous avons pour le moment.
Quelles sont les propositions que vous pouvez faire ou suggérer pour améliorer l'encadrement des enfants à l'école?
Bon, nous pouvons suggérer ceci, rendre d'abord les règlements intérieurs plus flexibles, c'est-à-dire adaptés au niveau des enfants. Dialoguer avec les enfants, leur expliquer quel est le bien fondé du règlement intérieur de l'école pour leur encadrement, mais aussi et surtout associer les parents, les copains par le truchement des comités des parents, discuter ensemble, élaborer ensemble pour faire leur comprendre également quel est le code de conduite clair qu'il faut suivre à l'école selon qu'il est positif ou négatif. Voilà un peu comment nous pouvons procéder pour améliorer tant à fait l'encadrement des enfants pas passés.
Avez-vous un mot à dire en rapport avec Mme Bonnette Lombé qui déjà fait le buzz au niveau des réseaux sociaux de par sa manière d'encadrer les enfants? Est-ce que c'est un modèle pour les autres?
Alors, je ne peux que l'encourager. Moi-même, je suis frappé par ce qu'elle fait. Donc, je ne peux que l'encourager. Donc, les autres, s'ils emboîtaient le pas, ce serait l'éducation qui va gagner. Voilà tout.
Monsieur Freddy Mandiangou, je rappelle que vous êtes le directeur à l'école primaire Omalaika, Anjili. Nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions et surtout de votre disponibilité à Radio Okapi.
Ok, c'est moi qui vous remercie et je pense que ce ne serait pas la dernière occasion.
Merci beaucoup.
Quel modèle imprimé pour l'encadrement des enfants à l'école? Votre magazine Banokapi se poursuit. Nous recevons pour vous Michel Otto, spécialiste des questions de l'enfance et expert à l'enseignement du préscolaire. Pour lui, les enseignants et les parents doivent créer un cadre favorable à l'apprentissage pour les enfants. Michel Otto est au téléphone de Ezekiel Mousalia.
Monsieur Michel Otto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste, hein, en tout cas des questions de l'enfant. Quel modèle d'encadrement d'enfants à l'école serait plus efficace et adapté dans l'environnement préscolaire?
Merci beaucoup Radio Capi pour l'opportunité que vous nous offrez. En ce premier jour du mois d'avril qui correspond au mois de l'enseignement, pratiquement en RDC, la question des modèles est une question qui relève de la culture. C'est quoi notre culture? Que veut la loi? Que veut le pays en termes de code objectif atteindre pour le plan d'éducation? Ici, il est question justement d'interroger les textes officiels, d'interroger la Constitution, d'interroger la loi cadre. On voudrait former un citoyen exemplaire, modèle, utile à lui-même et à la société. Donc c'est de là que devra partir les modèles qu'on doit utiliser. Ce n'est pas parce que j'ai vu ça à la télé, j'ai vu ça dans tel pays, j'ai vu ça dans tel... Non, c'est pas ça. Nous avons une mission éducative qui est officiellement reconnue par la Constitution, par la loi cadre et par les textes officiels. C'est de là que devons partir, c'est de là que nous devions construire tous les modèles qui devons, tous les prototypes qui devaient être des modèles pour nos enfants aujourd'hui. Voilà.
Comment un environnement éducatif bien encadré peut-il influencer la confiance et l'autonomie des enfants?
Déjà, l'environnement, qu'il soit négatif ou positif, il aura toujours et toujours une influence négative ou positive sur l'apprenant. D'où une attention particulière devra être accordée justement à cet environnement qui doit être un environnement qui apporte plus de valeur que d'antivaleur. L'environnement, c'est les gens qui nous entourent. L'environnement, c'est le matériel qu'on voit. L'environnement, c'est comment les gens parlent, comment les gens... Bref, ça va influencer les gens. Je prends un exemple. Un enfant avec qui tu sors de chez toi à la maison pour la ville, il passe 2 heures de temps dans un embouteillage pour une distance de qui devait prendre 5-10 minutes. Alors qu'un jour à la télévision ailleurs, il voit que le mot embouteillage est presque abstrait. L'enfant va ne pas aimer l'environnement qui est le sien, qui est réel, et va préférer l'environnement qui n'est pas le sien, mais qui est étrange, qui est étranger. L'enfant peut avoir suivi à la télé, par exemple, une grande personne, une autorité, qui s'est mal comportée, qui a volé, qui a détourné, mais qui est encore libre de circulation. L'enfant risque de le prendre pour un modèle. Voler est autorisé. Voler n'est pas punissable. Des choses comme ça doivent être minutieusement étudiées afin de pouvoir mettre à l'abri l'enfant qui est le futur dirigeant.
Et comment les enseignants et les parents peuvent-ils collaborer dans ce sens pour soutenir un modèle quelconque d'encadrement d'enfants?
Ah, là le champ est restreint maintenant au niveau de l'école. Oui. En fait, l'enseignant doit être lui-même un modèle par rapport à ce qu'il enseigne aux enfants. Je vais prendre un exemple. Nous sommes dans un cours d'hygiène, par exemple, où l'enseignant dit aux enfants « Ne jamais ramasser un morceau de pain qui est tombé à même le sol et puis le manger. » Mais l'enseignant lui-même, par manque de ressources nécessaires, son morceau de pain qui tombe, il ramasse, il mange devant les enfants. Cet enseignant aura prêché par un contre-exemple. À la maison, les parents qui disent aux enfants, mentir n'est pas bien, c'est diabolique, c'est satanique. Le même parent qui a une dette de quelqu'un, on vient le chercher, il dit, dis-lui que maman a zélité, papa a zélité. Donc, sans le savoir, les parents prêchent par un contre-exemple. Le parent donne aux enfants un modèle à suivre, qu'il n'aurait pas voulu donner, bien sûr. Donc,
Il est question ici d'une bonne collaboration entre l'école et la famille. Ça veut dire, à chaque fois qu'il y a assemblée générale des parents, par exemple, parce que la loi en prévoit 3 fois l'année, les écoles devront non seulement s'attarder sur tout ce qui est frais, qui généralement augmente, ils devront aussi parler aux parents des choses qui les intéressent, en rapport avec l'éducation des enfants, en rapport avec le modèle à suivre, en rapport avec l'environnement, les traits des enfants, en rapport avec l'encadrement des enfants en famille. Donc tout ça, ce sont des choses qui doivent être dites lors des assemblées générales des parents, qui, malheureusement, il faut le dire, ne tournent que autour de l'argent, malheureusement.
Un modèle d'encadrement d'enfants est devenu un peu viral là, sur les réseaux sociaux où on assiste donc des enseignants danser ou bien égayer les enfants. Est-ce que selon vous, cela peut concourir au bien-être de l'enfant?
Là, ça me fait penser à une dame, la star, je ne connais pas son nom, cette dame de Kinshasa de Yolo, qui se distingue par sa danse, c'est très bien déjà. Mais il faut savoir qu'est-ce que nous visons. Si cette danse est prise pour un aspect motivationnel, d'accord. Parce que ici, il faut faire la part des choses. Nous ne sommes pas un peuple danseur. Les enfants ne vont pas à l'école pour danser. Les enfants vont à l'école pour apprendre. Et la science et le savoir ne passent que par un canal qui est connu, un médium qui est connu. C'est la langue, qui peut être n'importe laquelle. Mais la danse, je ne sais pas quel serait son apport dans... Peut-être que les enfants pourraient ne pas sécher les classes, parce qu'ils voudraient bien voir leur enseignant danser, chose pour laquelle je ne partage pas trop cet avis, mais ça reste un modèle, ça reste une approche. Alors, danse comme modèle pour les enfants, je crains que cela ne puisse pas convaincre ce que je suis et ce que je fais. Et voilà ce que je peux dire en ce moment ici.
Mais est-ce que selon vous, il y a des limites à ne pas franchir dans la mise en place des modèles d'encadrement des enfants pour éviter des possibles perturbations?
Ben oui, écoutez, déjà le mot encadrer peut signifier éduquer, peut signifier former, peut signifier instruire, ainsi de suite. Lorsque on fait des choses comme ça, moi, je pense, je l'ai dit au départ, nous devons toujours avoir un fil conducteur, qui est la loi, qui est la philosophie de notre éducation. Qu'est-ce que l'on veut? On veut, les Congo veulent avoir des enfants formés comme de bons citoyens, utiles à eux-mêmes et à la société. La société a besoin de la paix en ce moment ici. La société a besoin de la justice équitable et distributive. La société a besoin des chercheurs. La société a besoin du bien-être, d'un environnement sain. Dites-moi, avec tout ceci, où est-ce que la danse intervient pour résoudre les problèmes? Sinon, ça reste une approche, mais pour laquelle je ne suis pas trop partant.
Pour finir, quels sont les outils ou bien les ressources qui peuvent être indispensables pour améliorer l'encadrement des enfants dans les préscolaires, surtout dans les régions secouées par des conflits, par des agitations, par l'instabilité au fait?
Les ressources sont multiples et sont diverses. Tout ce qui existe sont des ressources. Tout ce qu'on peut voir peut être utilisé comme ressource. Déjà, tout ce qui est animaux, tout ce qui est livres écrits, tout ce qui est cahiers, tout ce qui est même personne, sont des ressources. Parce que je prends par exemple le cas où, dans beaucoup de familles, il suffit de voir un chat passer, de la guerre au chat. Il suffit de voir un cantrela, un gecko passer, c'est la chasse au gecko. Alors que le gecko, il a droit à la vie, c'est dans l'écosystème. Alors, lorsque les parents sont le premier à chasser ces gecko, qui pourtant le gecko serait un matériel, une ressource éducative, mais ça pose problème. Maintenant, je voudrais m'éterniser un tout petit peu sur le cas malheureux de beaucoup d'enfants, des milliers d'enfants se trouvant dans des zones à conflit, qui ne peuvent pas bénéficier de l'éducation, qui ne peuvent pas bénéficier d'un encadrement parce que les parents eux-mêmes qui sont encadrés sont en insécurité. Il y a un auteur, Maria de Montessori, pour ne pas la citer, disait « Les jeux et le travail de l'enfant ». Mais si l'enfant doit travailler, c'est-à-dire doit jouer, on ne peut pas jouer tant qu'il n'y a pas la paix. On ne peut pas jouer quand ça crépite. On ne peut pas jouer si on n'a pas mangé. On ne peut pas jouer quand on a faim, quand on est malade. Une occasion pour nous d'interpeller
toutes les parties prenantes à laisser les enfants vivre en paix, à laisser les enfants jouir de leur plein droit d'enfants, parce que eux-là qui font la guerre aujourd'hui, eux-là qui tuent les enfants aujourd'hui, s'ils avaient été soumis à ces conditions à cet âge-là, ils n'auront pas fait ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils doivent savoir aussi qu'ils ne sont pas éternels. Ils vont partir demain. Mais les enfants qui sont traumatisés aujourd'hui, ils vont gérer demain. Dans quelles conditions vont-ils gérer? Dans des conditions traumatiques. Donc, il est important que la paix règne sur toute la planète, que la paix règne en Afrique et que la paix règne dans la partie nord de la RDC.
Michel Otto, je vous dis merci.
Merci beaucoup.
Bana Okapi.
Dans ce magazine, nous recevons un autre expert. Il s'agit de Ngakanga Lupiero Benjamin, conseiller pédagogique à l'Institut 1 Lumumba. Il décrypte les deux piliers de la politique gouvernementale en matière d'encadrement des enfants à l'école. Il s'agit de la pédagogie et de l'administration scolaire. Ngakanga Lupiero Benjamin est au micro de Jeff Opela.
Monsieur Benjamin Ngakanga Lupiero, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous parlons de l'encadrement des enfants à l'école. Quel modèle imprimer? Alors, vous étant que conseiller pédagogique, existe-t-il une politique gouvernementale en matière d'encadrement des enfants à l'école?
L'État a mis en place des structures. Donc, nous avons une structure qui gère la pédagogie des écoles et puis d'autres. Hein, c'est l'administration scolaire. Alors, sur le plan administration, nous avons d'abord secrétariat général, là en amont, et puis nous avons la division urbaine, nous avons la sous-division et la sous-division germanale de l'école. Et de l'autre côté, sur le plan pédagogie, nous avons l'inspection générale, nous avons l'inspection provinciale, et nous avons les poules. Et le pôle gère maintenant la pédagogie, gère les écoles. Et puis, au niveau des écoles, au secondaire, nous avons la préfecture. La préfecture gère pratiquement tout. Et nous avons la direction des études. Nous avons la direction des disciplines. Et les enfants sont gérés à partir de ces structures-là.
Alors, Monsieur Benjamin, comment évaluez-vous le nouveau modèle d'encadrement instauré dans certains établissements préscolaires, à l'instar l'école de Madame, c'est qui encore Madame Elombe?
Les établissements préscolaires, lorsque nous parlons de ces établissements préscolaires, nous voyons les écoles maternelles. L'État a institué ces écoles pour bien former nos élèves ici, de manière à bien s'adapter à l'école primaire. Alors, nous avons un programme national. L'État construit de beaux bâtiments aujourd'hui et nous avons tous les matériels qu'on appelle matériels didactiques pour nos élèves préscolaires que nous appelons maternels.
Ok, mais y a-t-il des mesures d'accompagnement que le ministère aujourd'hui met en place pour appuyer pareille initiative?
Les mesures d'accompagnement, l'État, quand il installe une école, par exemple maternelle ou primaire, secondaire, l'État met à la disposition des écoles des programmes nationaux, l'État met à la disposition de ces écoles des livres, par exemple, des manuels scolaires que nous appelons les mesures d'accompagnement de l'État.
Alors, monsieur le conseiller, je voudrais peut-être que vous évaluiez aujourd'hui, à votre avis, étant conseiller pédagogique, évaluer un tout petit peu ces modèles d'encadrement instaurés dans ces établissements préscolaires. Est-ce que vous pouvez dire que ça va? Vous pouvez dire qu'il y a des choses à arranger ou bien encore quelque chose à dire par rapport à cela?
Déjà, avec le programme que l'État a mis en place, c'est déjà une bonne histoire parce que nous avons des spécialistes. Par exemple, je vous ai parlé de l'inspection. L'inspection, ce sont des techniciens en matière de la pédagogie. Et ils se mettent ensemble, mettent à disposition des écoles, hein, des livres. Et puis, il y a aussi des formations. Il y a aussi des formations parce que tous ces encadreurs-là des établissements préscolaires sont formés par l'inspection. Et nous disons que l'évaluation est tout à fait bonne.
Alors, monsieur le conseiller, j'ai une question qui me traverse l'esprit. Selon vous, quelles sont les perspectives pour la mise en place des modèles d'encadrement
adaptés justement aux besoins spécifiques des enfants, selon les degrés.
Aujourd'hui, nous parlons par exemple des DAS, parce que nous parlons des DAS où l'élève, nous les mettons en contact avec le monde matériel. Aujourd'hui, la formation n'est plus comme auparavant où nous prenons des livres, où les enfants étudient sans voir, sans observer ce qu'ils sont en train d'étudier. Mais aujourd'hui, nous rapprochons l'enfant de la réalité. L'enfant est approché à la réalité. Par exemple, nous avons des matériels didactiques. Mmh. Nous avons des matériels didactiques. Quand l'enfant étudie, il voit directement ce qu'il est en train d'apprendre. Donc aujourd'hui, avec DAS et d'autres formations qui sont en perspective, donc l'enfant est vraiment d'actualité.
Si on vous demandait de donner quand même ou d'imprimer un modèle d'encadrement scolaire, que diriez-vous?
Un modèle d'encadrement pour les enfants de l'école.
Oui.
Nous savons que il n'appartient pas vraiment totalement à moi de, d'imprimer quelque chose parce que l'État déjà fait tout. L'État déjà fait tout. Nous avons, comme je vous ai dit là, nous avons les services pédagogiques, par exemple l'inspection, qui réfléchit déjà à cette matière-là. Okay. Et nous aussi, à notre qualité de conseiller pédagogique, nous essayons un peu d'ajouter quelque chose là où nous sommes. Il est difficile, n'est-ce pas, d'étendre tout ce que moi je suis en train de réfléchir partout. Ce que moi j'ai imprimé ne concerne que mon école, là où je suis. Je ne suis pas en mesure d'aller dans les autres écoles pour que nous puissions imprimer notre méthodologie partout.
Voilà, je crois que s'il y a quelque chose à dire par rapport à notre sujet aujourd'hui, je rappelle que nous parlons de l'encadrement des enfants à l'école, quel modèle imprimer. Et pour chuter, un mot pour les enfants aujourd'hui, un mot pour les parents également, parce que l'encadrement ne commence pas qu'au niveau de l'école. L'encadrement commence même au niveau de la maison. Et après l'école, les parents sont appelés à faire quelque chose. Et vous, étant conseiller pédagogique, qu'est-ce que vous diriez aux enfants et aux parents?
Oui, comme vous venez de dire là, l'éducation ne se limite pas au niveau de l'école. L'éducation, c'est d'abord les enfants, lorsqu'ils sont à la maison, parce que quand ils sont à la maison, ils sont à la disposition de leurs parents. Et quand ils arrivent chez nous, nous les encadrons. C'est ainsi que nous demandons aussi des parents de veiller. Parce que nous, quand nous donnons nos instructions, nous enseignons, c'est pour l'instruction. Et quand ils rentrent à la maison, les parents doivent aussi veiller sur les enfants, parce que l'enfant ne doit pas se limiter seulement à ce que nous... Donc, nous, quand nous donnons, l'enfant doit étudier aussi à la maison. Alors, maintenant, cet enfant-là qui doit étudier doit être suivi. Maintenant, à la maison, nous sommes incapables d'aller le suivre. C'est ainsi que nous demandons aux parents aussi de veiller à ce que les enfants arrivent à faire des révisions au niveau de la maison. Nous enseignons, et pour que l'enfant puisse bien maîtriser, il doit aussi revoir la matière que nous dispensons ici. C'est ainsi que les enfants, et d'abord, doivent eux-mêmes fournir beaucoup d'efforts, de prendre la conscience d'étudier, et des deux, les parents aussi doivent suivre, parce que de quoi les enfants sont négligents. Les enfants sont négligents, alors il faudra que les parents aussi veillent sur cet aspect-là, parce que l'enfant doit aussi étudier à la maison pour une bonne maîtrise.
Monsieur Benjamin Ngakanga Loupiro, je rappelle que vous êtes conseiller pédagogique à l'Institut 1 Lumumba. Merci de répondre à notre invitation.
Pour bâtir une élite intellectuelle souhaitée en RDC, Nera Chanera, psychologue, insiste sur un encadrement adapté dès les préscolaires. Pour lui, les modèles actuels sont souvent improvisés, avec de risques pour le développement des enfants. Il exhorte aux autorités, aux écoles, aux parents et aux enseignants à collaborer pour un accompagnement structuré. Nera Chanera encourage aussi les élèves à s'investir pour devenir des acteurs positifs dans leur communauté. Il a été joint par Pascal Chinamula.
Monsieur Nera Chanera, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on parle des modèles d'encadrement des enfants qu'on doit instaurer dans les systèmes d'enseignement, surtout dans l'enseignement préscolaire. On a déjà été inspiré par beaucoup de modèles, à l'image du modèle d'école de Madame Ilombé, devenu célèbre à Kinshasa et dans toute la République démocratique du Congo. L'impact de ces nouveaux modèles d'encadrement des enfants sur leur bien-être, c'est la raison de cet entretien avec vous. Quels sont les impacts d'un encadrement de qualité sur la réussite scolaire et l'épanouissement des enfants, selon votre expérience missionnaire?
Déjà d'emblée, ce qu'il faut devoir noter, c'est que l'épanouissement scolaire et intellectuel de l'enfant vaut la qualité de l'encadrement, de l'instruction qu'il a reçu tout au long de son cursus scolaire, déjà à travers l'école préscolaire ou la maternelle, du primaire au secondaire, et bien entendu qu'il va pouvoir se solidifier avec les études universitaires ou post-universitaires. Dans les cas de notre pays, c'est que moi j'estime au préalable, il faut qu'il y ait une étude spécifique qui arrive à démontrer d'abord les types d'hommes congolais que nous voulons par rapport aux besoins de notre pays, par rapport aux aspirations de notre pays, aux perspectives même de notre pays. Et lorsque nous aurions déterminé les types d'hommes que notre pays veut, c'est en ce moment-là qu'on déterminerait les systèmes scolaires, les systèmes d'instruction intellectuelle qui, d'office, va permettre de mettre en place les systèmes d'encadrement. Et je crois que de cette manière, on pourra arriver à pouvoir établir une bonne typologie d'encadrement des enfants et ce qui permettrait d'aboutir à construire des hommes, des élites qui reflètent les types d'hommes que veut notre pays, qui aspire notre pays par rapport à son besoin de développement, à son besoin d'émergence. Dans les cas contraires, nous sommes en train d'aller vers un échec préconisé, d'autant plus que nous sommes en train d'encadrer les enfants selon les perceptions différentielles d'un enseignant ou d'un maître ou d'une maîtresse, et ce qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à modéliser un système d'enseignement et d'encadrement des enfants dans notre pays.
Voilà, quels sont les besoins spécifiques dont les enfants ont besoin en matière d'encadrement, surtout les enfants du domaine préscolaire et scolaire?
Les enfants du domaine préscolaire et scolaire ont besoin déjà de suivre à travers le programme scolaire qui est établi des notions relatives à leur instruction, des notions préliminaires qui permettent de renforcer leur intelligence psychomotrice, leur perception et à déclencher même le développement de leurs cellules nerveuses qui permettraient de fluidifier et assurer la flexibilité de leur développement intellectuel. Et pour ça, il y a des programmes scolaires bien entendu qui est établi. Au-delà de cela, il doit y avoir aussi des activités parascolaire qui permet à l'enfant de vivre dans un environnement épanoui, qui permet à l'enfant de surmonter des situations stressantes, des situations angoissantes et qui met l'enfant dans des conditions propices à pouvoir suivre son encadrement. Et cela doit aussi être accompagné par exemple des espaces de jeu, des espaces culturels et des espaces d'apprentissage parascolaire et qui permettra à l'enfant de développer ses capacités culturelles, ses connaissances culturelles et développer aussi son intelligence émotionnelle et son intelligence verbale. Et c'est dans ces conditions-là potentiellement que l'enfant pourrait retrouver forcément un état éducatif bien bâti. Et comme je l'ai dit tantôt, cela devait être forcément déterminé par une modélisation du système d'encadrement ou du système d'enseignement dans notre pays. Ce qui fait en sorte que la manière dont l'enfant est instruit et encadré, les conditions dans lesquelles il est soumis, les conduit vers un objectif donné, vers un résultat donné, des types d'hommes que nous voulons avoir. Au cas contraire, nous serons en train de construire des gens de manière différenciée et ce qui ne permettrait pas forcément avoir des élites modélisées qui peuvent contribuer significativement au développement de notre pays à travers les besoins qu'à notre pays réellement.
Voilà, concrètement, missionnaire, à comment ces besoins spécifiques que vous venez d'évoquer peuvent être mis en commun pour créer un climat scolaire positif et bienveillant pour les enfants?
C'est une responsabilité qui revient au ministre de l'Éducation parce que c'est lui qui représente l'État dans les secteurs de l'éducation et c'est lui qui doit mettre en œuvre le programme scolaire tel qu'établi et bien entendu favoriser à ce que les activités scolaires soient mises en œuvre. Et déjà, il faut noter que les écoles, c'est divise en des catégories parce qu'il y a les écoles publiques qui dépendent forcément du financement de l'État et bien entendu les écoles privées qui dépendent de leurs promoteurs qui peuvent être des confessions religieuses, des personnalités individuelles et que sais-je encore, et que l'État doit s'assurer que chaque école répond aux critériums d'un environnement propice à un encadrement, à un enseignement de qualité. Et cela doit être même conditionné parmi les exigences de la création d'une école et que les inspecteurs scolaires doivent s'y rassurer que chaque école est conforme aux exigences telles qu'elles préétablies. Moi, j'estime forcément qu'il faut une étude participative qui fait en sorte que tous les acteurs impliqués dans le processus de l'éducation dans notre pays y prennent part, et ce qui arriverait à mettre en place un système modélisé qui prend en compte toutes les désirata et qui répond même à tous les problèmes et tous les besoins tels qu'exprimés et qui permet à chaque école de fonctionner dans des conditions optimales et permettre aussi aux élèves de pouvoir assurer leur épanouissement à travers l'encadrement et l'enseignement qu'ils auront à suivre.
Vous venez d'évoquer beaucoup des défis que le pays doit encore élever en matière de mise en place d'un plan d'encadrement des enfants en milieu scolaire. Comment l'élaboration de ces plans d'encadrement peut-il contribuer à prévenir les difficultés scolaires et sociales et par ricochet aboutir aux résultats attendus que vous avez évoqués au début de cet entretien, à savoir à la création d'une communauté des hommes que vous avez appelé des hommes des élites?
Le système éducatif congolais de notre pays est bien organisé et bien structuré. Et il faut qu'il y ait un diagnostic participatif qui soit mis en place, qui permet à ce que les promoteurs, par exemple, des écoles privées, les chefs d'établissement, par exemple, des écoles publiques, et tous les acteurs ou les parties prenantes au processus de l'éducation de notre pays y prennent part. Et ces diagnostics permettraient, par exemple, de faire un état du lieu objectif et qui met en évidence les désirata, les problèmes, mais aussi les forces qu'a le système actuel, parce qu'il faut capitaliser ces forces et renforcer encore par d'autres facteurs qui favoriseraient des conditions optimales. Je prends les cas par exemple de Madame Bilombe qui, avec des conditions particulières, arrive à mettre ses enfants dans des conditions plus ou moins optimales. Mais là encore, il faut faire une étude qui permet d'avoir l'impact de sa créativité dans l'éducation de l'enfant. Est-ce que cela favorise forcément l'épanouissement ou la performance scolaire des enfants? Est-ce que cela permet forcément aux enfants de pouvoir surmonter les stress et l'angoisse, renforcer leur performance scolaire? Et si ces études sont avérées, en tout cas, l'État doit en ce moment modéliser cette façon même d'enseigner ou d'encadrer les élèves dans tous les pays et que ça soit un modèle propice à des objectifs précis dans chaque école. Et moi, je crois que c'est de cette manière qu'on pourrait s'y rassurer forcément, que cette manière aussi de faire, cette créativité, cette innovation est bien évidemment pertinente et apporte des résultats probants qui sont aussi mesurables qu'on peut observer et manipuler, bien entendu. Et encore, faut-il souligner qu'il y a des aspects très importants dans notre pays qui n'est pas pris en compte. C'est par exemple la psychologie scolaire. Et il est très important que les systèmes scolaires de notre pays prennent en compte cet aspect de la psychologie scolaire qui permet forcément à chaque école de se rassurer du bien-être social des élèves et que c'est rassurer forcément que les élèves qui rencontrent des difficultés X, Y soient accompagnés de manière précise et de manière individuelle qui lui permettrait de bien surmonter et assurer une bonne performance scolaire.
Voilà, place au conseil maintenant. Conscient que nous n'avons pas encore un système d'encadrement promis par les autorités de tutelle, mais qu'il est important de s'inspirer des modèles qui sont déjà proposés par certaines écoles. Aujourd'hui, quel conseil vous pouvez donner d'abord aux enseignants pour améliorer leurs pratiques d'encadrement et puis un conseil aux parents pour accompagner leurs enfants dans cet encadrement à l'école?
Je commencerai par les parents pour conscientiser d'abord les parents qu'ils sont les modèles par excellence des enfants et que ils doivent arriver à comprendre que le développement de leurs enfants et fonction de leur vécu en famille, de leur conduite envers leurs enfants et même des conduites entre papa et maman. Ils ont ces devoirs de pouvoir se comporter de manière à ce que l'enfant ne soit pas mis dans des conditions stressantes ou angoissantes et qui ne lui permet pas d'assurer une bonne performance scolaire et aussi de suivre un encadrement ou l'enseignement scolaire tel qu'il se doit. Donc, il est du devoir des parents vraiment en tant que premier acteur de l'éducation, responsable de l'éducation de l'enfant plutôt, de pouvoir s'assurer que l'enfant puisse étudier dans les conditions optimales et vivre dans des conditions favorables à son bien-être et aussi à sa performance scolaire. Quant aux écoles, aux enseignants, je crois que Je conseillerais aux écoles de privilégier l'approche par compétence, parce que l'approche par compétence permet à ce que l'enfant puisse apprendre pour acquérir une compétence spécifique donnée. Et cela, par exemple, va de soi avec des innovations, comme nous le voyons avec Madame Bilombe et ainsi de suite. Et ce qui permettrait aussi à ce que chaque école se diffère par une manière particulière aussi d'encadrer ou d'enseigner ses élèves et les assurer particulièrement que les élèves s'épanouissent déjà au niveau de l'encadrement, au niveau de l'enseignement scolaire. Et je conseillerais également aux écoles de recourir à des expertises psychologiques sur le plan scolaire qui leur permettraient aussi de pouvoir arriver à modéliser des modes de fonctionnement, des modes d'enseignement basés sur l'approche sur les compétences et qui permettraient non seulement à l'école de se distinguer, mais aussi de se rassurer que les élèves aient un enseignement de qualité et également acquièrent les compétences requises et qui feraient d'eux des élites responsables à l'avenir.
Monsieur Tchanera, c'est par là qu'on met fin à cette entrée et merci pour toutes vos contributions.
Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi.
Merci beaucoup.
Ainsi s'achève ce numéro du magazine Bana Okapi consacré à l'encadrement des élèves du préscolaire et du primaire. L'encadrement des tout-petits à l'école est un défi, mais aussi une responsabilité collective comme nous l'avons constaté ensemble. Nous avons vu aujourd'hui que des modèles existent, que des enseignants passionnés et des experts engagés se mobilisent. Mais il reste encore beaucoup à faire. Parents, enseignants, autorités, créons un environnement social épanouissant où chaque enfant se sentira valoriser et encourager à donner les meilleurs de lui-même. Vous souhaitez réécouter cette émission, revivre ces moments forts ou découvrir nos autres productions? Rendez-vous dès maintenant sur le site de Radio Okapi, www.radiokapi.net, et n'oubliez pas, la discussion ne s'arrête pas là. Rejoignez-nous sur notre page Facebook Bana Okapi pour partager vos impressions et poser vos questions. Nous serons ravis de vous retrouver et d'échanger avec vous. Nous disons merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. Sulamit Kipuni, Jeff Opela, Ezekiel Mouzalia, Plotin Yambenga, Guylaine Kassassia, Pascal Chinamoula, Grâce Nouvezolo, André Kitenge, Stanislas Djoumi, Kelvin Baeni, Greta Lulendo et Christelle Fretti. Un grand merci également à Christian Mapendano et à Chris pour la coordination de ce programme et à Jean-Marc Matokimofelele Dijano pour la supervision. Sans oublier Mimi Kindou qui était du côté de la mise en onde. Je suis Sarah Soumbela, j'étais à la présentation. À tous nos auditeurs, merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Bana Okapi.